Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dernier épisode du livre Trembler, un récit écrit par Catherine Laborde aux éditions Plon. Nous retrouvons encore quelques nouvelles informations sur la maladie de Parkinson de l'auteur. Et comme dans les précédents épisodes, je relis l'avertissement donné par l'auteur en début du livre. Chers lecteurs, vous trouverez ici et là dans ce texte des mots qui n'existent pas ou qui reproduisent plusieurs fois la même lettre, voire la même syllabe. Des mots réels, exacts ou non, qui apparaissent de façon quasi intempestive dans ce récit. Ne vous en étonnez pas. J'aurais pu les effacer à la relecture, mais j'ai au contraire tenu à conserver les traces des difficultés rencontrées par mon cerveau lorsqu'il s'agit de le faire travailler, quand un intrus vient court-circuiter son fonctionnement. Voilà pourquoi certains mots sont indiqués avec un astérisque. Cette faiblesse de l'esprit, ces carences ou absences ou dysfonctionnements des neurones survenus lorsqu'on ne les attend pas, tous les parkinsoniens pourraient vous les décrire, chacun à sa manière. Ils les rencontrent et les connaissent. Je rajouterai à ceci quelques mots que nous retrouvons un peu plus loin dans le texte. Quant à Parkinson, je me réserve le droit d'écrire son nom de manière presque systématiquement erronée. Petite vengeance des mots et des lettres sur la maladie, elle me fait du bien. Et le chat ronronne. Ceci dit, nous partageons maintenant notre dernier épisode du livre en cours. Je lis. Hanche. Tout est sans doute parti de là, de cet os. Comme pour beaucoup d'entre nous, passé un certain âge, j'ai été opéré de la hanche. Le chirurgien m'a montré une sorte de barre de fer qui me permettrait de marcher à nouveau. Opération réussie, chirurgien satisfait, je suis restée à peine 36 heures dans sa clinique, une barre en titane enfouie dans le bas du ventre. Est-ce cet objet, cet inquisiteur, qui est à l'origine de mes tremblements? Chevilles. J'allais oublier les chevilles. Comment est-ce possible? Voici la partie de mon corps la plus en forme. Certes, elles tremblent parfois avec le pied en période de crise, mais en général, elles sont aussi vaillantes qu'indépendantes. À vrai dire, je crois qu'elles sont la partie de mon corps que je préfère parce qu'elles sont fines et vives. J'adore danser. Quand j'entends une chanson à la mode et que je me mets à sauter dans le rythme, mes chevilles, par leur souplesse, m'accompagnent pendant tout le temps de la musique. Je me suis rendu compte des qualités de mes chevilles. Souplesse, vitalité, lors des meetings d'Emmanuel Macron pendant la campagne électorale 2017. Dans d'immenses salles, la musique jouait à fond pendant plusieurs heures dans l'attente du candidat. Et quand il entrait enfin, les bras levés résonnaient une musique spécialement conçue pour lui, extrêmement rythmée. Et là, mes chevilles, chauffées par le tempo, se réveillaient et je sautais de plus en plus en cadence. Jamais depuis le début de Parkin, je ne m'étais sentie aussi légère, aussi souple, en accord avec tous ceux autour de moi qui, eux aussi, sautaient, dansaient, riaient, et c'était un moment de formidable liberté. Je crois que c'est pour cette sensation que certains voient le tango comme une sorte de thérapie parallèle face à Paddington. Et ce qui est vrai pour le tango vaut pour toutes les manières de retrouver un accord juste avec soi-même. Tout ce qui tend à retrouver la circulation d'énergie dans le corps peut lutter contre Parkinson. J'aime changer l'orthographe de ce mal dès que je le peux. Sur mon Mac, il se souligne de rouge comme s'il n'avait rien à faire dans ce texte, ni dans ma vie. Fesses. J'ai failli ne pas faire de chapitre sur les fesses. Je n'aime pas ce mot. Tout de suite surgissent des images misogynes. Mais je veux tenter de tout dire. J'ai ce but naïf de découvrir dans cette maladie et dans l'écriture les effets qu'elle produit sur mon corps et dans ma tête. Je cherche une vérité qui m'échappe, plus grande que moi sans doute, mais qui m'apporterait la paix. Une forme de révélation douce pour mes proches et pour moi. Mon corps a changé quand je n'ai plus été sous l'emprise de la télé. Depuis que j'ai cessé de me montrer, les rapports entre lui et moi ne sont plus les mêmes. Tant que je travaillais, j'ai été mince, sans régime, sans précaution, sans attention. Je mangeais de tout sans jamais me priver. À l'antenne, j'étais toujours fluette. J'ai un peu grossi dès que j'ai arrêté la météo. Ce changement de poids n'a rien de rationnel. Il faudrait plutôt aller chercher du côté de l'inconscient. J'ai grossi en quittant l'antenne parce que je me suis libérée de la contrainte de l'image. Ces kilos en plus sont une victoire, ma victoire. Je ne suis plus la dame de la météo, je suis moi. Et forcément, cette disparition que j'ai choisie pourtant m'inquiète. Vais-je disparaître avec l'effacement de mon image, de vos rétines et de vos écrans? Je constate que non. Sur la petite île où nous nous sommes installés, T et moi, la question ne m'embarrasse pas vraiment. Et j'ai désormais du temps pour m'occuper de vous, chers lecteurs. Je pense à tous ces gens qui sont eux aussi victimes de Parkinson ou de maladies voisines. Je suis avec eux, mais aussi avec ceux qui prennent soin du malade, ce qu'on appelle les aidants. Et forcément, je pense à eux, si dynamiques, pleines de ressources. Elle se bat pour sa fille tous les jours, à chaque seconde, et ne trouve un léger repos que quelques heures le mercredi, comme à l'école, l'école de la vie, qu'elle accepte avec tant de courage et de générosité. J'aimerais me libérer de ma maladie. J'aimerais que mon corps me laisse vivre une vie heureuse sans le poids d'un Parkinson ou d'un corps de Lewy. Je pense à cet hymne de la libération féminine écrit par Jacques Prévert. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. Je suis celle-là, aujourd'hui, un peu moins mince, un peu plus malade. Le poème porte ce désir incompressible d'être soi, de ne pas dépendre du regard de l'autre. C'est un chant à la liberté. Parkinson n'y peut rien. Petit matin, il fait froid. Paris est sous la neige, tout blanc comme une carte postale. Devant un feu de cheminée, je vous écris encore, mes chers malades, mes chers aidants. Mais ce matin, les rôles sont inversés. J'ai besoin de vous, là, maintenant. J'ai besoin que vous me consoliez, que vous me donniez des forces pour affronter Parkinson et ses comparses. C'est si difficile ce matin. Je ne sais rien de moi. J'ai cru avec ce livre m'en rapprocher. J'ai cru que me partager entre corps et esprit me donnerait la force acquise par la connaissance de lutter contre Parkinson. Foutaise! J'ai de plus en plus peur de ne pas arriver au bout. C'est un piège qui se referme. J'écris de moins en moins, mon corps se fragilise. J'avance à l'aveugle. Je suis tentée d'effacer ces quelques lignes qui précèdent, mais non, je les garde. Je ne veux pas enjoliver ce qui m'arrive. Tous ceux qui sont attaqués par Prakispo connaissent ces moments de désarroi total qu'aucune présence ne peut combler ou effacer. Heureusement, ces crises d'angoisse sont suivies de répit. Et la vie redevient belle devant un feu de cheminée. C'est là que je m'installe. Adamo chante « Tombe la neige ». Nous ne sommes pas seuls. Je vous imagine tout près, partageant mes angoisses et mes joies. Vous n'êtes pas seul ? Et moi, grâce à vous qui me lisez, je n'ai pas peur de la solitude. Mais plutôt que la solitude, je redoute la peur de Parkinson. La maladie nous isole dans cette angoisse, sauf quand on peut la partager avec d'autres malades. Et ce Parkinson, malgré toutes ses tentatives pour nous ramener à la souffrance solitaire, aura, j'espère, égayé quelquefois vos vies avec ses orthographes ridicules. Et puisque ce chapitre est consacré aux fesses, j'y reviens donc. Encore un peu de gaieté, s'il vous plaît. Si vous avez l'occasion d'aller au Louvre, allez voir les Rubens, et en particulier la salle consacrée à Marie de Médicis. Ses fesses ! De quelque côté qu'on se tourne, elles s'offrent à tous les regards. Joufflues, rebondies, énormes, maflues, bouffies, elles sont toutes semblables, et pourtant toutes différentes. Mais le satiné de la peau est si beau, si tendre, si élégant, qu'on finit par les aimer, ses fesses. Et me voilà bien contente d'échapper enfin à la dictature de la maigreur. Sexe. À la suite du chapitre fesses, bien sûr. Je n'ai rien à écrire sur ce sujet, à part de ne jamais oublier l'amour que j'ai pour lui, l'amour qu'il a pour moi. Le sexe, c'est le secret, le cœur de l'amour. Quand je suis contre lui, je ne tremble presque plus. Guérir. Voilà le chapitre qui devrait clore ce livre si j'étais follement optimiste. Astérisque. Mais je ne suis pas optimiste, astérisque, juste raisonnable. Je n'ai pas de sympathie pour ce mot. Il s'invite sans que je l'aie invité. Mais il peut être utile, nous donner la bonne distance entre la maladie et nous. Donc, je récapitule. Je ne peux ni guérir ni mourir de cette maladie. Je n'écris pas ce livre pour guérir, aucun livre ne me fera guérir. J'écris pour tenir mon mal à distance. J'écris également pour dire à tous ceux qui en sont victimes qu'ils ne sont pas seuls. Enfin, je m'adresse aux aidants, c'est-à-dire à tous ceux qui s'occupent des malades. Reste la question, ni guérissable, ni mortelle, comment vivre avec Parkinson? Les jours s'en vont, je demeure. Guillaume Apollinaire.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission Jolie pour vous, présentée par Hélène Vignon.
Carpe diem. Chers lecteurs, chères lectrices, j'écris pour chacun de nous et nous sommes tous différents. Chaque malade a son rythme propre et la maladie ne s'attaque pas à tous de la même façon. Je doute que chacun se retrouve totalement dans la manière dont je vis, moi, Parkinson. Aussi, après avoir beaucoup parlé de moi, mais je suis le sujet de cette étude. Élargissons mon terrain d'observation. À lire la littérature sur Parkinson, je constate l'optimisme des médecins et le désespoir des malades. Les malades veulent être pleins, les médecins reconnus. Quand les seconds s'intéressent d'emblée au progrès de la science, les premiers attendent d'abord de la compassion. Ils veulent qu'on mette leurs souffrances sur la place publique, alors que les médecins leur conseillent le secret. À travers les revues que je feuillette, je perçois le fossé entre ces deux positions. Avec les progrès scientifiques, les patients auront une vie plus douce, leurs soignants de nouvelles connaissances. Mais quand, question centrale, le temps des chercheurs n'est pas celui des patients, et ce qui paraît court aux uns et se révèle beaucoup trop lent pour les autres. Quand ma maladie aura progressé, j'y verrai plus clair, ou au contraire, plus du tout. Je ne serai plus là. Je reviens à aujourd'hui et à la controverse qui se manifeste dans le courrier des lecteurs des revues sur Park Hyung-soo. Certains se plaignent qu'on ne donne pas sa juste place d'horreur et de souffrance à Parkinson, alors qu'on parle tout le temps d'Alzheimer. Il y a concurrence. C'est moi le plus malade. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Peut-être connaissez-vous cette blague. Deux amis sont dans un café. Ils ont commandé une bière. L'un souffre de Parkinson, l'autre d'Alzheimer. Duquel voudriez-vous prendre la place? Le Parkinson? Pourquoi? Parce que moi, je renverse de la bière en la buvant, alors que l'Alzheimer a oublié qu'il avait commandé une bière. Ha ha ha! On rit! Ha ha ha! Mon éditeur me le répète souvent. N'écris pas un texte triste. Ne parle pas de la mort tout le temps. Alors, je m'applique. Je comprends sa crainte qui est celle de tout éditeur. Ne pas vendre assez de livres. Ne parle pas tout le temps de la mort. Tu vas les faire fuir, enchaîne mon amoureux. Au risque de vous faire fuir, mais c'est comme ça. C'est cela que j'ai envie d'écrire en ce motard astérisque. Et la maladie m'oblige à ne rien me refuser, à n'en faire qu'à ma tête. Carpe diem. Même si je ne suis pas sûre que ma définition du carpe diem soit la bonne. Montaigne aussi parlait de la mort tout le temps, et il n'est pas triste. Oui, mais tu n'es pas Montaigne. Touché. On veut être aimé tous, et l'une des meilleures façons d'y parvenir est de faire sentir à quel point on est victime. Je comprends. C'est dans la nature humaine et dans la mienne en particulier. Moi aussi, j'ai besoin qu'on me plaigne. J'adore ça. Et cette maladie est une bonne occasion d'enraciner la plainte. Oui, mais justement, là est le danger. Que la plainte ne cesse plus de se renforcer, de grandir. Il faudrait être assez fort pour adopter cette formule anglaise. Never explain. Never complain. Essayez, ça marche dans les deux sens. Et c'est assez classe, non? Mais cela demande une force de caractère que je ne possède pas toujours. Je donne des conseils d'autant plus aisément que jusqu'à présent, je n'ai pas ressenti, moi, de douleur particulière ou même gênante depuis que la maladie s'est déclarée. Je suis dans la période dite « lune de miel », mais il ne faut pas s'y fier. Vous aurez remarqué que certains mots, certaines tournures de phrases traduisent mon impuissance à bien écrire ou à chercher un terme perdu dans ma tête. Ces mots sont plus ou moins nombreux selon les jours et les termes traités. Parfois, les doigts me trahissent, la mémoire me dénonce. J'attends patiemment que tout marche à nouveau, la femme et la machine. Montaigne, qui n'avait pas d'ordinateur, quand une idée traversait son esprit, dépêchait un valet de la salle commune à sa librairie en courant pour que ne s'efface pas de sa tête l'élaboration de la pensée qui venait de traverser son cerveau de philosophe. Pour lutter contre la faiblesse de ma mémoire, j'ai, moi, cet ordinateur. Mes pensées restent, cependant, bien confuses. Je me retourne toujours vers toi, cher lecteur. C'est en allant vers toi que je m'oblige à plus de clarté, plus de rigueur dans l'écriture. En écrivant « Trembler », j'essaie de ne rien cacher, de ne pas réduire ce qui m'arrive à la simplification de n'être arrêté ni par des mains qui tremblent, ni par la fugacité de pensées qui m'échappe trop vite. Je veux poursuivre mon but littéraire sans être interrompu par des fautes trop pressées pour les corriger avant que la maladie me censure. Je sais que viendra un moment où je ne pourrai plus du tout écrire, que ce soit avec ou sans l'ordinateur. Alors profitons-en. Savourons le moment, Je me souviens que maman m'avait autrefois acheté une bague basque sur laquelle étaient inscrits ces deux mots latins, « carpe diem ». Une bague basque, c'est un anneau tout simple où sont gravées pensées et sentences. Je l'ai gardé longtemps, cet anneau qui me rappelait nos vacances à Saint-Jean-de-Luz avec maman, mes sœurs, mon père. Oui, parfois la mémoire, surtout celle des jours anciens, m'envoie des signes qui nourrissent une mélancolie enfin apaisée. Quant à Parkinson, je me réserve le droit d'écrire son nom de manière presque systématiquement erronée. Petite vengeance des mots et des lettres sur la maladie qui me fait du bien. Et le chat ronronne. Je suis convaincue que les chats, d'une certaine façon, protègent des tremblements liés à Prekenzo. Eux aussi tremblent parfois, mais c'est au plus fort de leur câlin, dans l'extase. Je devine des mines réticentes. Décidément, chaque parking est unique.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission « Jolie pour vous », présentée par Hélène Vignon.
Confusion. Je reviens à mes contradictions. Je suis dans une totale confusion. D'un côté, je garde ma maladie secrète, comme les médecins me l'ont conseillé, et de l'autre, je tente d'écrire un livre où je ne cherche pas à me cacher, mais où, au contraire, j'essaie de m'exposer de toutes les manières à la recherche d'une vérité qui m'échappe. Je reviens vers vous, chères lectrices et lecteurs. Dans le courrier que vous adressez aux revues sur Parking, vous réclamez d'abord de l'attention, de l'amour. Vous voulez qu'on vous aide, vous voulez dire qu'on vous aime. Un des moments cruels de cette maladie, c'est qu'on ne la voit pas. Ces maladies chroniques, invisibles, exigent une force d'âme que nous ne possédons pas tous à toute heure. Il nous faut tenir sans se plaindre. Sans doute, et si parfois on se confie à un invalide, ne jamais oublier qu'il ne voit pas ce dont on souffre et qui nous enferme malgré nous, malgré lui, dans la solitude. Et puis, viendra ce moment où la maladie apparaîtra sur mon visage. Je sais déjà quel masque elle revêtira. Tête baissée, langue tirée, regard sans expression, tremblement permanent. Je l'ai écrit déjà, mais je me force à le réécrire, astérisque. Ce masque-là, je le porterai un jour, je le sais. Autant connaître sous quel aspect et de quelle manière. Je fourbis les armes. Je me prépare à lutter contre cette malédiction. Je ressemblerai à Cassius Clay. Tout le monde le verra. Souffrirai-je un peu, moment ? Astérisque. En provoquant la pitié de ceux qui me verront ? Pas sûr. Après la pitié s'installera la souffrance. Je réclamerai moi aussi de l'aide et de l'amour. J'ai la chance d'être entourée de gens qui m'aiment et leur présence fait reculer Parkinson. Aidant 1. Ce chapitre sera sans doute plus court que les autres. J'avance dans l'écriture avec de plus en plus de difficultés. Je supprime des phrases qui ne veulent rien dire. Et puis la pudeur surgit tout à coup, inexistante, quand je parle de moi ou de Parkinson, mais obsédante quand je voudrais évoquer ceux qui m'aiment et que j'aime. Dans tous les handicaps, qu'ils soient chroniques, mortels, nouveaux, cognitifs, moteurs, invisibles, quel que soit leur nom, il y a toujours auprès des malades des aidants pour prendre soin d'eux. Jusque-là, je n'ai rien écrit sur les aidants dans ce livre. Alors, il est temps. Aidant, deuxièmement. Toutes les pages précédentes développent surtout les difficultés à vivre avec un handicap. Il n'a pas encore été question des aidants. Pourtant, ce sont eux qui supportent le poids du handicap et font face au développement de la maladie. dont les manifestations sont parfois très difficiles à comprendre, à porter, à adoucir. On dit même que les aidants meurent plus vite que les aidés dont ils ont la charge. Il est très difficile et parfois presque impossible de se mettre à la place d'une victime en situation de handicap. Et dans le regard de ceux qui ne sont ni aidants ni malades, apparaît un malaise qui agrandit le fossé entre les aidants et ceux qui n'ont jamais côtoyé des victimes de handicap. On isole les victimes de handicap, on isole aussi les aidants. Aucune graffitication astérisque. Pour eux, aucun attendrissement. D'ailleurs, ils n'en attendent pas. Les aidants sont pour la plupart des bénévoles qui prennent en charge ceux qui ont besoin d'eux dans le cercle le plus intime des parents ou des amis. Mais s'il y a décalage de regard entre ceux qui côtoient la maladie et ceux qui la subissent et ceux qui prennent soin des malades, le fossé devient gouffre entre le monde du handicap et celui des bien portants. Aidants et malades ne sont pas dans le même tempo face à la maladie. Entre eux s'installe cas en cas un équilibre instable, un décalage permanent. L'aidant attend du malade qu'il fasse des efforts, surtout quand le handicap est léger ou invisible, ou les deux. L'aidant, finissant par oublier le handicap et la situation de la victime du handicap, « Tu pourrais faire le lit. Range un peu, s'il te plaît. Nous avons un dîner ce soir et tu ne vas pas changer d'avis ?» « Tu as pris tes médicaments, les trois, tu es sûr ?»« Un apéro alors ? Trop fatigué ? Ah bon, je vais les appeler pour décommander. Je leur dis quoi ? Que tu as la grippe ? Ou moi, comme tu préfères ?»« Tu as appelé le professeur de yoga ?»« Tu es toujours fatigué, toujours, c'était pareil avant ta maladie. » »« Et le dentiste ?» Ah, drôle de couple, aider, aidant. Celui qui est en situation de handicap trouve légitime d'être aidé. Cette légitimité est partagée par l'aidant, ce qui peut sembler paradoxal à beaucoup, sauf pour celui qui vit comme une évidence l'aide qu'il peut apporter à l'aidé. Peu de révolte, peu de plainte chez les aidants qui trouvent naturel de s'occuper d'un proche, sœur, tantes, parents, enfants. Ils prennent soin de tous ceux qui, pour une période longue ou courte, ponctuelle ou passagère, perdent leur autonomie et ont toujours besoin de présence, de soins, d'attention. Mais pourquoi cette maladie m'est-elle tombée dessus? Vous voyez, je ne reste pas longtemps sans parler de moi. Mais je parle, j'écris aussi au nom des autres, de tous les autres victimes de Prisiton. Le mystère est entier pour moi comme pour eux. Nous formons un ensemble de malades qui, quelle que soit la façon dont se développe le mal, ont en commun ce satané Parkinson. En France, on compte à peu près 150 000 cas de Parkinson. Ce n'est ni un virus, ni une bactérie. Et le mystère est toujours le même. Comment cette maladie est-elle venue s'inscrire en moi pour détruire des neurones, mes neurones ? J'ai tort de penser ainsi cette maladie. J'ai tout faux. Elle ne vient pas de l'extérieur avec sa charge de sortilège. Non, elle sort de moi. Impossible de raisonner de manière archaïque en faisant appel aux maléfices et aux sorts jetés par certains. Ai-je tant d'ennemis ? Non, elles ne viennent pas de l'extérieur. C'est l'ensemble de la machine qui s'use et se sclérose. Pourquoi ? Là réside encore le grand mystère. Mystère, peut-être, mais pas de fake. Pas question d'entrer dans le domaine de l'irrationnel où toutes les sottises d'une pseudo-pensée se renforçant les unes les autres. Cette maladie, c'est la version sur place. Rien à porter, rien à emporter. Et on est bien tenté par cette manière de la vivre, à cause de son caractère irrationnel qui, justement, ne s'explique pas pour le moment. Les neurones, en particulier ceux de la substance noire, dégénèrent et meurent. Les autres prennent de plus en plus de place dans l'ensemble du cerveau. Et voilà, c'est tout. Circuler, il n'y a rien à voir. Pas de maléfice, pas de malédiction, pas de rémission. Ok, mais quand même, pourquoi est-ce tombé sur moi? L'eau à la bouche. Salivation plutôt que bave, forcément. Bave est un mot cruel pour ceux qui en sont victimes. Les autres font semblant de ne pas voir ou essuient tendrement et furtivement un coin de lèvre. Vous avez déjà déjeuné en face de quelqu'un qui bave en mangeant? Ce dégoût qui se lève en vous, cette pitié qui apparaît. Je vous renvoie à la nouvelle de Stefan Zweig, La pitié dangereuse. Ce mélange de bassesse et de compassion, de gêne et d'empathie, ne l'avez-vous jamais ressenti? On fait semblant de ne pas voir, et on a honte de faire semblant. Je repense au jeune chauffagiste, à ses yeux entre le gris et le bleu. Dans son camion, lui ne m'avait pas regardé comme un être étrange, étranger même, fabriqué par l'image. C'était juste avant le diagnostic, juste avant que le couperet ne tombe. Ce regard-là, tous ceux qui sont victimes d'un handicap, les subissent asterisque, plus que quiconque. Ces regards-là doivent disparaître. Je crois au pouvoir des mots. C'est pourquoi je te propose, ami lecteur, de remplacer le mot « bave » par « salive ». Et même de remplacer « salive » par « eau ». Peu à peu, le regard change, avec les mots jusqu'à cette expression magnifique « l'eau à la bouche ». On a l'eau à la bouche quand t'es servi la plus appétissante des nourritures. Avant même de l'avoir goûtée, on la voit, on respire son fumet, on la dévore des yeux. Bref, on convoque les sens. Et c'est dans le bonheur de cet appel au sens que l'on salive. L'eau à la bouche est une salivation. Elle est la marque d'un moment sensuel de joie et de gourmandise. Pas de quoi être dégoûté. Tous les sens ne sont pas convoqués pour que coule l'eau à la bouche. Parkinson nous fait parfois aussi perdre l'odorat et parfois le goût. Restent cependant les autres sens. En particulier, la vue pour jouir de l'instant préséant, asterisque, sans référence à d'autres. La maladie nous apprend que chaque patient est unique dans l'attaque du mal comme dans la façon de vivre sa maladie. Ne pas se laisser faire, ne pas se résigner, rechercher ce qu'on aime, bouger, danser, le combat n'est pas terminé, il peut être gagné. Épilogue. Comme tous les jours, le chat est venu s'installer sur moi en cette fin de nuit. Nous voilà tous les deux immergés dans le silence, troublés seulement par la souris de l'ordinateur, le cri d'une mouette qui remonte la scène à l'abri du froid et le ronronnement de la petite bête qui frémit le nez enfoui dans l'écharpe où elle retrouve mon odeur. Je murmure des mots doux à son oreille. Le chat s'étire, bave de plaisir. Les chats comme les humains bavent. Les humains par gourmandise, les chats par amour. En même temps qu'il salive sur mes genoux, il sort alternativement ses griffes de la patte gauche puis celle de droite. Il fait du pain, aurait dit Colette. Il pétrit l'écharpe comme le boulanger son pain. C'est ainsi qu'il est heureux. Mais son amour est bien douloureux pour moi. À chaque pétrissage, ses griffes s'enfoncent jusqu'à ma peau et des dizaines d'épingles pénètrent ma chair. J'ai donc établi un rituel copié sur mon père, cet amoureux des chats et des mots croisés. Entre les griffes et ma peau, je pose un petit coussin sur mes cuisses. Au début, le chat se montrait réticent. Le coussin n'a ni l'odeur, ni la couleur, ni le matériau qu'il connaît. Tout est nouveau pour mon chat. Il n'aime pas ce qui est nouveau. Mais mon chat m'aime. Finalement, il a été d'accord pour le coussin. Et nous avons gardé nos rendez-vous des petits matins. Le jour s'est levé. Les mouettes dansent dans le ciel. Le chat se rendort. Moi, pas. Ce sera pour plus tard. J'ai le temps. Comme la vie est lente et comme l'espérance est violente, Guillaume Apollinaire. Remerciements. Mes remerciements les plus chaleureux vont à mon amie Catherine Dezeau pour son assistance patiente. Merci aussi au docteur J.F. Sherman qui m'accompagne avec perspicacité dans ma nouvelle vie avec paix. À la fin du livre que nous terminons, nous allons reprendre la quatrième de couverture du livre comme une sorte de résumé. Voici ce qu'il était dit. Catherine Laborde, tremblée. Dans ce livre Vérité sur la maladie de Parkinson, Catherine Laborde raconte avec pudeur, émotion, humour aussi, ce mal qui touche plusieurs milliers de personnes, malades et aidants inclus. Après avoir réfléchi à mon quotidien, j'établis ainsi la liste non exhaustive des symptômes de la maladie de Parkinson qui me touche. Trembler, baver, tourner en rond, crampes, ralentissement de la marche, hésitation, mémoire récente défaillante, discours incohérent, cauchemar, main gauche tordue, constipation, larmes, sentimentalisme, trébuchement, insomnie, hallucinations fugaces, mais aussi fourmillement dans les pieds, le dos, peur des escaliers, des vélos, de la vitesse, des bêtes sauvages, d'être abandonné, d'être seul la nuit, peur de tout, perte des repères géographiques, généalogie incertaine, déambulation sans objet. Est-ce que tout cela fait une maladie? N'oubliez pas, chers auditeurs, votre émission « Je lis pour vous » sur Radio Alliance Plus, soit le direct sur Radio Alliance 103.2 FM et DAB+, les mardis et mercredis à 21h avec rediffusion les lundis et mardis à 6h. Vous pouvez aussi nous suivre avec les podcasts sur le site de la radio www.radioallianceplus.fr. N'oubliez pas d'écouter la brève de Je lis pour vous. Ce sont des citations et des dictons avec leur signification, telles que « battre sa coulpe »,« faire florès » ou « être plein aux as ». C'est le samedi à 7h45 sur la radio. À bientôt pour partager un nouveau livre.